Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour chez vous, chers auditeurs et internautes. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de la fréquence de la paix Radio Okapi. Aujourd'hui, 3 décembre, le monde célèbre la Journée mondiale des personnes vivant avec handicap. Cette journée, organisée tout le 3 décembre depuis 1992 par les Nations Unies, a pour but de soutenir les personnes vivant avec handicap. Alors, votre magazine dédié aux jeunes et plus jeunes, Bana Okapi, célèbre cette journée en évoquant cette problématique, comment bien traiter une personne vivant avec handicap. Dans ce magazine, nous allons parler discrimination, inclusion et savoir vivre avec les personnes vivant avec handicap. Vous aurez l'occasion de suivre les jeunes, les enfants et les spécialistes qui vont nous parler de comment bien traiter une personne vivant avec handicap pour ne pas le faire sentir discriminé. Je suis Stanislas Diumi à la présentation de ce magazine, une mise en onde de Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa, une réalisation de Sarah Sundela sous la supervision de Jean-Marc Matouakimofelele Dijano. Le magazine Bana Okapi prend son envol.
Okapi,
spécial 3 décembre, journée internationale des personnes vivant avec handicap. À Bukavu, au moins un jeune a vu des gens se moquer des personnes vivant avec handicap. Pour la plupart, c'est souvent étant enfant que ce genre d'agissement ont lieu. Mais en grandissant, certains confirment traiter les personnes vivant avec handicap avec respect comme toute autre personne. Ils le disent au micro de Rachel Kisimbangu.
Ma réaction face à une personne handicapée est la même qui... chez toute personne. Je les traite avec respect et bienveillance. Pour ce qui est de savoir si j'ai un jour vu quelqu'un se moquer d'une personne handicapée, bien évidemment. Mais cela remonte à des années quand j'étais enfant et adolescent. Parce que souvent, c'est à ces tranches d'âge qu'on se moque de personnes handicapées. Pendant mon environnement, dans mes proches, il n'y a pas de personnes handicapées.
Personnellement, moi, j'avais... souvent tendance à vraiment lui regarder, à vraiment fixer un peu, voir, vraiment à le regarder bizarrement. Mais après, au fur et à mesure, j'ai compris que ce sont des personnes comme nous, des êtres humains comme nous. Donc, quand je vois un handicapé, je regarde d'une manière normale. Je lui dis, c'est une personne normale comme moi, juste qu'il a un handicap et ça ne change rien par rapport à sa personne.
Pour moi, je vais essayer de la traiter comme étant une personne très normale. Et je pense que, bon, le respect, c'est la base. Donc, rester naturel, faites comme si il n'y en avait rien du tout, très poli. Mais aussi, ça dépend de l'handicap. Parce qu'il y a des personnes, si t'es aussi naturel que ça, très, très, très poli, très gay avec elle, elle va penser que parce que c'est à cause de son handicap que tu te comportes de la sorte. C'est un peu comme ça quand j'ai réagi. Mais je dis aussi que ça dépend de l'handicap. Il y a des handicaps qui sont assez chelous. Vous arrivez de voir les gens se moquer d'une personne handicapée? Ouais, ça arrive, surtout quand elle n'est pas là, si elle est éloignée et tout. Si elle n'arrive pas à faire certaines choses parce qu'elle est handicapée, ça arrive. Je ne pense pas avoir des amis handicapés. Zéro handicap chez mes amis, je pense. Aucun? Oui, aucun.
Okapi,
L'éducation en famille est la base de tout. Le comportement des enfants reflète souvent l'éducation reçue en famille, dit-on. Pour certains parents de Bukavu, c'est un sujet presque pas abordé avec les enfants. Mais quand l'occasion se présente, ces derniers n'hésitent pas à faire comprendre aux enfants que les personnes en situation d'handicap ne sont pas des sous-hommes et qu'il faut les traiter avec respect. Car ces derniers ont le même droit que ceux qui n'ont pas d'handicap. Les parents appellent les enfants à plus de tolérance vis-à-vis de leurs amis ayant de handicap. Ils sont au micro de Rachel Kessembangou. Écoutons leur réponse.
En parler régulièrement, je dirais non. Mais déjà, ça a été un sujet où, avec les enfants à la maison, nous avons pu aborder cela, compte tenu qu'il y a l'un des enfants qui a un ami, qui a un handicap. Comment le traiter? Bon, le traiter comme tout le monde, hein. De ne pas leur voir, évidemment, ce que j'avais eu à dire aux enfants, de ne pas leur voir comme des sous-hommes, et de ne pas leur voir comme si nous valons mieux qu'eux. Parce que c'est vrai qu'ils peuvent avoir ces handicaps-là, mais cela ne réduit à rien leur capacité d'agir, leur capacité de participer, leur capacité d'apporter un plus, que ce soit évidemment dans la société, que ce soit dans une entreprise, que ce soit sur l'état de choses, hein, dans l'ensemble en fait. Parce qu'il y a des handicapés, hommes ou femmes, qui se sont mariés, qui ont des enfants aussi qui sont des enfants normaux, qui sans handicap, allais-je dire, excusez-moi. Alors dans ce sens-là, c'est les enfants, je pense qu'ils ont compris, je crois qu'ils ont compris, parce que étant donné déjà qu'ils ont des amis qui ont des handicaps, ils ne les traitent jamais comme de sous-hommes. Et cela leur permet de pouvoir entretenir une relation saine, hein, qui fait en sorte qu'ils puissent s'habituer avec les personnes vivant avec handicap, et ils ne sont pas complexés, ils ne sont pas mal à l'aise, ils échangent toujours comme il se doit, et cela leur permet aussi de pouvoir toujours évidemment être à l'aise et de ne pas se sentir gêné. Et évidemment, ça leur permet aussi, quand je dis leur, ce n'est pas seulement, ce ne sont pas nos enfants, mais aussi ces enfants-là qui ont des handicaps, de pouvoir se sentir à l'aise et de ne pas se sentir amoindré au sein de la société.
Je parle souvent à mes enfants concernant les personnes handicapées, parce que moi aussi j'ai vécu ça. Mon premier enfant est né handicapé. Il avait un problème au niveau des pieds. Heureusement, le centre pour handicapés Rekwetu l'a vraiment aidé. Après 2 ans, il est sorti sain. Vraiment, gloire à Dieu. Et quand on sort, ou bien quand on voit une personne handicapée en cours de route, les autres regardent Michael et disent, mais Michael était aussi comme ça. Et là, ça devient un débat à la maison. Ça devient un débat à la maison. Et moi, je leur montre comment les personnes handicapées sont très courageuses, parce qu'au moins, eux, ils travaillent. Ces derniers temps, les personnes handicapées ne commandent pas. Non, ne commandent pas. Tu ne peux pas voir une personne handicapée, maïbobo. Non, non, non. De ma part, non. Je ne vois pas une personne handicapée, maïbobo. Mais au moins, eux, ils travaillent.
Cette question, évidemment, me pousse évidemment à en parler plus, hein, à évoquer plus le sujet aussi, que ce soit nous aussi ou les parents, essayer un peu de voir, parce que nous rencontrons ce genre de personnes dans des réunions, dans des conférences, il nous faut toujours adopter cette attitude de responsable, que ce soit nous qui n'avons pas d'handicap et eux, nous sommes tous égaux, et que nous avons droit aux mêmes chances, nous avons droit au même traitement. Nous devons aussi savoir qu'il y a des choses que ces personnes maîtrisent mieux que nous, et que nous avons aussi besoin d'eux. Parce qu'il ne faut pas penser que ce sont seulement eux qui ont besoin de nous. Nous aussi, nous avons besoin d'eux, parce que je connais des gens avec des personnes avec handicap qui ont des compétences vraiment, et qui ont excellé dans certains domaines. Et cela démontre évidemment que nous sommes tous égaux et nous avons tous droit aux mêmes chances et au même traitement, des traitements sains, de traitements conviviaux, afin que nous puissions tous vivre ensemble dans cette société. Et il est important que nous, les parents, que nous puissions intérioriser cela aux enfants. Si je pourrais dire, comment nous l'avons évoqué, lorsque c'est arrivé une fois que l'un des amis de nos enfants, c'est-à-dire moi et ma femme, était à la maison, étant donné qu'il a un handicap, nous avons eu observé comment l'enfant était en train d'interagir avec son ami. Et après le départ de l'ami, nous avons eu à évoquer cela, comment ça se passe, les relations, tout ça. Et l'enfant a donné évidemment la manière dont leurs relations fonctionnent au sein de la classe, comment ils sont. Et nous avons demandé à l'enfant de pouvoir être un peu plus tolérant, parce que il faut pas se le cacher que les personnes vivant avec handicap, parfois, ils sont colériques. Colériques, parfois, souvent, c'est la manière dont la société réagit par rapport à leur handicap. Et pourtant, nous devons leur accompagner, leur faire sentir qu'ils sont comme nous sommes tous égaux. Et c'est de cette manière-là que ça a été abordé avec les enfants.
Je montre à mes enfants comment ils sont comme nous. eux, ils travaillent, ils ont des rêves, même si ils n'ont pas de pieds ou bien ils ne voient pas, mais au moins ils travaillent. Et c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Je vois des aveugles en cours de route en train de vendre des sacs à main faits à la main. Et j'ai dit, mais c'est un génie, ces messieurs qui vendent des sacs à main. Des fois aussi, je parle à mes enfants comment Dieu fait des choses à sa manière. Si une personne est née handicapée, c'est pas de son propre gré, mais c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Et oui, oui. Vraiment, on parle tout, presque tous les jours parce que mon enfant aussi était handicapé. Et c'est pourquoi quand on voit un enfant handicapé ou bien une personne, ça nous remue. Et puis, on commence déjà à parler.
Direction Béni à présent, chaque 3 décembre, c'est la journée internationale de la personne vivant avec handicap. À cette occasion, Béatrice Assimoni appelle la communauté tout entière à prendre compte de leurs différents apports pour leur inclusion totale. Pour elle, il est stressant de voir que jusqu'aujourd'hui, plusieurs personnes continuent à les minimiser. Béatrice Assimoni est ici dans cet entretien avec Guylaine Kassassia.
Béatrice Assimoni, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Comment aimeriez-vous être traitée?
En tant que personne handicapée, j'aimerais être traitée comme toute autre personne. Dans quel sens? La personne sans handicap n'est pas discriminée dans la société. C'est ainsi que j'aimerais aussi être incluse dans la société. Pas une inclusion mascarade. Quand je parle d'une inclusion mascarade, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un peut faire semblant de me traiter comme toute autre personne. Et là, je peux aller par un exemple. Je suis membre de la communauté. Je peux aussi participer au développement de la communauté. Il peut y avoir une réunion qui nécessite aussi ma présence en tant que membre de la communauté. Mais l'organisateur de la réunion, par exemple, peut chercher une salle qui n'est pas accessible selon mon niveau d'handicap. Là, est-ce que je dirais que vraiment je suis traitée comme d'autres personnes? Je passe non. En famille, par exemple, je peux avoir besoin de faire quelque chose. Mais une soeur, un frère peut me dire que toi aussi, tu crois être capable à faire cette activité. Là, je me sens discriminée. Il faut me laisser que je puisse aussi essayer. Si, par exemple, je trouve que ça ne va pas, là, je peux lâcher. Mais pas à toi de me dire que tu ne seras pas capable. Je ne peux pas faire ça, dans ce sens. Je peux aller plus loin. Je suis une femme. Un homme peut venir créer une relation amoureuse avec moi. Mais ce n'est pas à toi, l'ami, à mon copain, venir dire que, et toi aussi, parmi toutes les filles, par exemple, de cette maison, c'est seulement Béatrice que tu as vu. Tu vois, là, j'aimais ça aussi discriminer. Donc, moi, en tant que personne handicapée, j'aimerais aussi être traitée et considérée comme tout le monde.
Voilà, madame. Alors, comment êtes-vous traitée habituellement en communauté, même en famille?
Dans la communauté, il y a toujours une discrimination. Mais les gens veulent faire semblant, comme s'ils ne nous discriminent pas. Mais à vrai dire, nous sommes toujours discriminés. Là, je vais m'expliquer. Moi, là, je peux organiser une association. Quand j'organise une association qui n'est pas pour les personnes handicapées, mais les gens auront tendance à dire que, est-ce que celle-là sera capable parce qu'elle est handicapée? Est-ce que réellement, c'est le physique qui travaille? C'est pas le physique, c'est le mental. À l'école, je suis traitée comment? On m'appelle que je puisse résoudre un exercice. Bien sûr, là où il y a les tableaux noirs, ce n'est pas accessible à moi. Mais lorsque l'enseignant, parce que l'enseignant peut être initié, l'enseignant est informé, voilà, c'est le terme. L'enseignant est informé que la personne handicapée doit être traitée selon aussi son niveau d'handicap. C'est-à-dire comment? Il peut m'amener les cahiers et me dire que, madame, toi tu peux résoudre ton exercice en étant sur ta place. Maintenant, les amis vont se moquer de moi. Je peux essayer de m'ingérer dans une discussion quelconque. On va me dire que toi aussi, tais-toi. D'abord, toi, tu n'as jamais passé au tableau. Tu vois tout ça? Toi, on t'amène les cahiers et puis tu réalises ton exercice toujours sur place. Qu'est-ce que tu vas nous dire? À l'école, toujours, il y a l'ère de gymnastique. Mon enseignant connaît que je ne suis pas capable de faire cet exercice. Mais quand il m'avait dit, toi, Béatrice, tu vas rester là-bas, tu vas prendre les outils, par exemple, ou soit les tenues de la gymnastique, toi, tu peux garder pour les autres. Et voilà, toi, tu vas encore, on connaît, c'est toi la sentinelle, tu vois, des critiques pareilles. Là, je ne suis pas vraiment à l'aise. Dans la famille, je vais continuer. Quand il y a réunion en famille, les gens auront à croire que parce que moi, je suis handicapée, je n'aurai pas une idée, une bonne idée à proposer dans la réunion. Or, je l'ai dit en vain, c'est pas mon physique qui va compter. C'est la tête, le mind. Au lieu de service, je peux être là où il faut faire les terrains, par exemple. Mon chef connaît ma façon de marcher, mais le chef va voir que selon la marche de cette personne, elle peut arriver là-bas quand il aura pris la source pour répondre à cette information. Prends l'argent du transport. Ça sera aussi un problème pour les collègues. Même dans les quartiers. Moi, je sais que marcher pour moi, c'est pas facile. Je me fatigue trop. Dieu me bénit. Je ne manque pas mon 1000 francs pour les transports. Mais ça sera déjà un sujet de dissertation. Et toi, on connaît Mère Bosse. Toi, tu manques jamais l'argent. On te voit toujours sur des motos. Tu passes, tu rentres sur des motos. Tu ne marches pas à pied. Et ne savent pas que moi, je paye la moto. C'est pas pour le prestige. C'est ça mon moyen de transport. C'est ça mon moyen de déplacement. Ça, les déplacements comme la moto, je ne saurais pas. Donc, je suis en train de voir que toujours dans la communauté, nous semblons être discriminés.
Alors, madame, il arrive que vous soyez quand même devant une personne qui vous prend en pitié juste parce que vous vivez avec un handicap.
Oui, de tels cas arrivent. On peut être quelque part, soit on est parti compatir avec un ami. Maintenant, quelqu'un peut dire que moi, je vais transporter Béatrice parce qu'elle a mal à marcher par pied. Mais à soi, je ne trouve pas ça comme une aide qui est normale. Tu peux m'aider sans me dire que tu m'aides parce que je suis handicapée. Si tu veux me transporter sur ta moto, dis seulement que, madame, est-ce que je peux t'aider? Parce que ce n'est pas seulement l'handicapé qu'on aide. Pourquoi seulement à moi que tu vas dire que je t'aide parce que tu ne connais pas marcher?
Est-ce qu'en famille, par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui dit, grande sœur, mets-toi là-bas, moi je vais faire... Comme toi, tu ne veux pas peut-être qu'on dise handicapé, hein? Est-ce qu'il arrive aussi à famille?
Il y a de ses parents, et parce que quand tu aimes ton enfant, il faut le laisser là-bas. Ça lui apprendre quelque chose. Ma maman peut me dire, tu peux faire la vaisselle, ça va? Mais mon père va dire quoi? Tu n'es pas en train de voir sa condition. Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle peut faire ça? C'est une personne qui souffre, qui est en souffrance. Il ne faut pas les surcharger avec des travaux domestiques. Mais maman va dire quoi? Tu sais, celle-là ne grandira pas avec toi. On ne sait jamais. Il faut l'apprendre à faire quelque chose. Ça aussi, ça arrive.
Et naturellement, les gens vous aident seulement parce que vous... Ils ajoutent toujours parce que vous êtes handicapé, mais pas de beau cœur.
Je n'ai pas dit que c'est tout le monde. Il y a ceux-là qui m'aident, sans dire que parce que je suis handicapée. Là, j'aime ça à l'aise. Tout le monde peut être aidé.
Alors, madame, comment vous sentez-vous lorsque une personne vous sous-estime juste à cause de votre physique?
Moi, quand quelqu'un me sous-estime, actuellement, ça ne peut pas me gêner. Je t'éprouve de quoi est-ce que je suis capable. Tu peux croire que... Madame, je vais te donner un exemple. Comment je passe? Il y a quelqu'un qui va me dire que tu pars à l'atelier. La personne croit que, comme je suis handicapée, je dois nécessairement être couturière. Moi, je vais te prouver que je ne sais même pas comment on taille un habit. Je fais ça et ça et ça. Je t'éprouve. Tu peux venir. Madame, est-ce que je peux faire ceci pour toi? Je dis non, non, je suis capable de le faire. Parce que les gens vont penser que, parce que je suis handicapée, c'est maintenant que je suis en train de mendier. Oh, on parle de la mendicité, voilà, la mendicité. Ça, moi, je n'aime pas. Même à la maison, il peut y arriver maman à quelque chose pour nous partager, nous tous, nous attaquer enfants à la maison. Si maman m'a ignoré, je ne peux même pas réclamer. et se comporter.
Tu es réclamé, on va dire, parce que tu es handicapé.
Non, bon, c'est une chose qui est à moi. Maintenant, à l'extérieur, je ne demande pas. Ça, je l'ai dit tout haut. Moi, je ne demande pas. Si tu veux me donner quelque chose, tu vas me donner. Je crée des choses. Si, par exemple, tu ne me donnes pas, tu me dis que je n'ai rien à te donner, je vais dire que, ah, j'ai la honte. Ça va? Ouais. Deuxièmement, les gens vont penser que je suis en train de mendier parce que je suis handicapée. Maintenant, moi, je m'efforce à être capable, à faire tout ce que je peux. S'il n'y a pas possibilité, je vais faire semblant, comme si je me suffisais. C'est ça.
Voilà, peut-être pour finir, alors, quel message aimeriez-vous lancer aujourd'hui à tous ceux-là qui nous écoutent maintenant?
Voilà, juste le message à lancer, je vais m'adresser d'abord à mes semblables handicapés. Il faut savoir faire des activités auto-prise à charge. Tu sais, quand tu as quelque chose, lorsque tu es aussi à mesure d'aider une autre personne, on te prend en considération dans la famille. Quand tu as quelque chose, on ne peut pas décider sur un problème quelconque sans toi, parce qu'on connaît que tu feras aussi quelque chose. Et aussi, pour ceux-là qui nous discriminent, madame, je te rappelle que dans la loi organique du 3 mai 2022, notre ministre, madame Irène Sambo, ainsi que les présidents ont promulgué cette loi portant protection et promotion des personnes handicapées. Mais il y a ceux-là qui font semblant de ne pas être au courant de cette loi. Maintenant, je vais dire à mes semblables d'être toujours informés. Quand tu es informé, aucune de tes lois, de tes droits, sera piétinée. Tu seras à la page. Et en famille, parce que tout commence par la famille. Il ne faut, surtout en famille, papa et maman, tu as ton enfant handicapé, il faut amener cette affaire à l'école. Il ne faut pas la laisser à la maison. Tu as la farine à la parcelle, ce n'est pas à cet enfant de garder la farine. Amener cette affaire à l'école, et l'affaire sera aussi utile dans la communauté, dans la nation, dans ta famille propre. C'est ça juste le message.
Madame Béatrice Assimoni, nous vous remercions.
C'est à moi de vous remercier.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Nous sommes de retour et très heureux de vous retrouver. Pour ceux qui nous prennent en cours de diffusion, il s'agit du magazine Bana Okapi, un programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF dédié aux jeunes et plus jeunes. Nous nous penchons cet après-midi de la Journée internationale de personnes vivant avec handicap. Comment bien traiter une personne vivant avec handicap? Dans ce magazine, nous sensibilisons les jeunes et plus jeunes à savoir comment bien traiter les personnes vivant avec handicap. Ne pas être auteur de harcèlement, de discrimination ou encore de se sentir gêné en face d'eux. Un psychologue et un juriste sont nos invités dans ce magazine pour échanger sur la question. Stanislas Diumier à la présentation de ce magazine mis en onde de Dieudonné Nyangasa Wanyangasa, une réalisation de Sarah Sumbela sous la supervision de Jean-Marc Matouakimo Felele Dijano. Ce magazine est coproduit par Grâce Mvouezolo, Rachel Kiesse, Ezekiel Mouzalia, André Kitenge, Jeff Opela, Grévis Salumu et Guylaine Kassassia. Nous lançons cette seconde partie. Spécial le 3 décembre, Journée internationale des personnes vivant avec handicap. Votre magazine Bana Okapi célèbre ce jour en sensibilisant les jeunes sur la façon de traiter les personnes vivant avec handicap. Place à présent aux invités, Monsieur Nera Chanira Kaninda est psychologue social et des organisations. Il fait le point sur la perception des enfants face à une personne vivant avec handicap et les raisons de cette attitude. Il appelle chacun de nous à traiter avec dignité les personnes vivant avec handicap car cela faciliterait, selon lui, leur inclusion intégrale. Il s'entretient avec Jeff Opila.
Voilà, M. Nira Kaminda, quelle est la perception des enfants face à une personne vivant avec handicap?
Dans la plupart des cas, les enfants ont une perception négative des personnes vivant avec un handicap, dans la mesure où notre société a plus développé des stéréotypes sur les personnes vivant avec handicap, ce qui fait que dans le processus d'éducation et de socialisation des enfants, ils développent plus l'impression selon lesquelles les personnes vivant avec handicap sont des sous-hommes, et que dans la plupart des cas, ils estiment que ce ne sont pas des personnes normales. Et ce qui fait en sorte que plus des stéréotypes sont développés, et ce qui favorise...
Ah oui, monsieur Nera, mais,
avec handicap.
Mais pourquoi est-ce que certaines personnes ont du mal à bien traiter les personnes vivant avec handicap, selon vous, étant psychologue?
Certaines personnes traitent mal les personnes vivant avec handicap parce que dans leur éducation et dans leur processus de socialisation en général, on leur a inculqué certains stéréotypes. Et c'est ces stéréotypes qui conditionnent leur mental ou leur état psychologique à pouvoir traiter ou considérer des personnes vivant avec handicap comme des sous-hommes. Et si un enfant, dans la mesure du cas où il a été mieux éduqué déjà en famille, où on l'a appris la dignité humaine, la considération égale envers tous les êtres humains, il sera difficile pour cet enfant de pouvoir discriminer une personne vivant avec handicap, d'autant plus qu'il n'a pas en lui développé des stéréotypes qui favoriseraient la stigmatisation de son semblable qui vit avec handicap.
Mais pensez-vous que ces traitements des uns et des autres fait que les personnes vivant avec handicap se sentent encore plus mal dans leur peau?
Effectivement, parce que l'enfant avec handicap a besoin de l'inclusion sociale, de l'intégration sociale, parce qu'il doit interagir. Il est très important de souligner que les événements les plus significatifs de la vie d'un individu, ce sont ces événements vécus en interaction avec les autres. Donc c'est lorsque nous sommes en interaction avec les autres que nous arrivons à se sentir aimés, à se sentir valorisés, et bien entendu qu'on trouve la satisfaction de la sécurité, de l'amour. Et lorsque dans les milieux dans lesquels nous vivons, nous sommes discriminés ou stigmatisés du fait de notre état physique, il est bien normal qu'on soit frustré, qu'on développe plus d'angoisse et qu'on se sent une personne moins que rien par rapport aux autres, parce que ce sont dans les cas d'espèce des personnes en mobilité ordinaire qui se moquent de moi, par exemple, qui suis en mobilité réduite. Et de plus en plus, ces personnes vivant avec handicap, s'ils ne suivent pas un bon soutien psychologique, ils laissent l'intégration sociale.
Donc si chacun de nous traitait bien les personnes vivant avec handicap, cela faciliterait leur inclusion?
Bien entendu, parce qu'ils se sentiront en sécurité, ils se sentiront aimés, ils se sentiront considérés, ils vont développer leur estime de soi et ils vont se sentir utiles à la société et bien entendu aux autres. Mais lorsque vous êtes stigmatisé, ça veut dire que vous n'avez plus d'utilité dans votre milieu social et dans votre environnement social, et ce qui va vous frustrer davantage. Et chaque être humain a besoin d'amour, de considération et surtout a besoin d'une mode d'interaction sociale, parce que c'est ce qui nous forge, c'est ce qui nous rend utiles devant les autres, devant soi-même, devant les autres, et que l'estime de soi favorise en fait l'estime des autres. Et si le traitement des autres nous fait croire que nous ne sommes pas utiles, il sera difficile pour nous de pouvoir mieux interagir avec les autres. Donc c'est dans cette perspective que nous sommes appelés à se comporter de manière positive envers les personnes handicapées. Et par idéal et par vertu, tout être humain, surtout particulièrement pour ceux qui prient et développent certaines vertus, et il est très important, très utile pour eux de savoir que l'humanisme, c'est le caractère sacré. Et quand on a en soi la vertu de l'humanisme, ce qui nous impose à pouvoir aimer son semblable, peu importe sa mobilité, qu'il soit réduite ou pas.
Oui, mais c'est Néra. Pensez-vous également que la réaction des gens face aux personnes vivant avec handicap est une question d'éducation?
En partie oui, parce que l'éducation des bases commence en famille. C'est déjà en famille que nous apprenons les premières notions de la vie, les premières notions sociales, les premières notions de la morale. Et c'est déjà au niveau de la famille qu'on apprend à s'aimer soi-même et à aimer les autres. Si dans cette éducation des bases, nous avons déjà acquis certains prérequis moraux qui nous amènent à pouvoir bannir les stéréotypes envers les personnes vivant avec handicap, et bien entendu, ces genres d'enfants ne vont pas stigmatiser ou discriminer leurs semblables vivant avec mobilité réduite. Et ce qui sous-entend que c'est aussi un problème social très significatif et que déjà à l'école, il est très important que ces notions soient mieux enseignées pour que les enfants vivent en harmonie avec tout le monde, peu importe leur état physique.
Et comment changer la perception des gens sur les personnes vivant avec handicap physique?
Cette perception devrait changer tout simplement par des sensibilisations, des changements des comportements, bien entendu, des changements de mentalité, et aussi, surtout, pour ceux qui sont appelés à être des parents, de pouvoir se rassurer à enseigner, à inculquer aux enfants plus de vertus, d'humanisme, de dignité humaine, et ce qui permettra à chacun de développer des aptitudes contraires aux stéréotypes. Et également, il est très important pour des acteurs comme l'école et l'église, qui sont des acteurs très importants dans les contrôles sociaux formels, qu'ils incluent dans leur processus d'évangélisation, notamment pour les églises, et d'instruction notamment pour les écoles, le vertu de l'humanisme, la morale, et ceci permettrait à ce que les enfants, ou les jeunes, ou les adultes, de pouvoir développer la vertu de l'humanisme qui leur incombe la responsabilité de vivre en harmonie avec tout le monde et particulièrement avec les personnes vivant avec handicap.
Oui, je vais chuter par cette question, oui. Monsieur Nera Chanera Kaninda. Comment apprécier à bien traiter les personnes vivant avec handicap?
Je crois que tout dépend de soi, de la personne lui-même, et chaque être humain, bien entendu, nous avons ce que nous appelons les différences individuelles au regard avec notre éducation, avec notre religion, avec les vertus et les valeurs que nous développons nous-mêmes. Cela nous inculque à développer des attitudes de bienfaisance, des attitudes, des considérations avec les autres qui nous amènent à tenir des propos, comment dirais-je, des propos décents et à se comporter de manière ordinaire, à savoir aider la personne qui vit avec une mobilité réduite, de savoir parler avec lui couramment et décemment, et de pouvoir à chaque fois toujours adopter des conduites d'amour par des gestes, par des symboles, par la parole, également par la solidarité, et c'est ce qui permettrait à ce que nous vivons en harmonie avec les personnes vivant avec handicap. Mais il est aussi très important de souligner que les personnes qui vivent aussi avec handicap, nous avons la responsabilité pour ceux qui ont de la connaissance, ceux qui ont déjà développé de vertu, de pouvoir les soutenir moralement, psychologiquement, parce que une personne vivant avec handicap qui est mieux outillée socialement aussi fera face à tout type de stéréotypes et de discriminations, de stigmatisations, et bien entendu, il développera une résilience qui lui permettrait de vivre en harmonie et de faire face à toute situation sociale contraire aux bonnes pratiques de la vie ou les bonnes habitudes de la vie.
Monsieur Nera Chanera Kaninda, nous vous remercions d'avoir répondu à toutes nos questions.
Okapi, encore plus d'infos.
Nous recevons le juriste de maison Jeff Opela avec qui nous allons nous entretenir concernant notre sujet du jour. Alors, bon après-midi Jeff.
Oui, bon après-midi Stanislas Dioui.
Comment vous allez?
Très bien.
Ça va.
Très très bien.
Voilà maître Jeff, aujourd'hui nous parlons de la journée internationale des personnes vivant avec handicap. En tant que juriste, parlez-nous de la convention relative aux droits de personnes vivant avec handicap.
Et de première vue, Stanislas Dioui, ce qu'on peut retenir de la convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap, parce que c'est un traité international pour assurer la dignité, l'égalité devant la loi, le droit humain et les libertés fondamentales des personnes avec handicap en tout genre, je dis bien en tout genre. Surtout que selon l'ONU, récemment, il y a 650 millions de personnes, environ 10% de la population mondiale qui souffrent de quelques infirmités, hein, d'ordre physique, mental et sensoriel. Raison de la mise en place de ces cadres juridiques internationaux pour justement rappeler que le principe proclamé par la Charte des Nations Unies selon lequel la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérente de tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et inaliénables qui constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Mais aussi, j'aimerais rappeler, il faut aussi reconnaître que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte des internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et convenu que chacun peut se prévaloir de tous ses droits et de toutes les libertés qui sont énoncées sans distinction aucune, sur empreinte bien sûr du cadre universel, indépendant, indissociable de tout le droit de l'homme et de toute liberté fondamentale, à la nécessité d'en garantir la pleine jouissance aux personnes handicapées sans discrimination.
Mais Maître Jeff, les statistiques que vous venez de donner sont vraiment énormes. Et est-ce que cette convention a été aussi signée par la République démocratique du Congo?
Bien sûr, Stanislas Dumi. Cette convention a été signée par la République démocratique du Congo. C'était depuis le 3 mai 2022 que cette convention... Non, c'était le 3 mars, ça doit être le 3 mai 2019, oui. Et puis ratifiée. C'est là où j'allais dire ratifié en 2022.
Ok.
Raison pour laquelle on a même la loi numéro 2203 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap.
Et quelles sont les retombées de cette convention des personnes vivant avec un handicap?
Bon, les retombées, c'est qu'elle assure la dignité, l'égalité devant la loi de tout. Les personnes, comme on dit la loi, toute personne, tout être humain a le droit et la liberté fondamentale qu'il bénéficie de la même manière que les personnes vivant avec handicap. Donc il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de distinction en matière de droits et devoirs. Donc elle assure la dignité, elle assure également l'égalité devant la loi, les droits humains, les libertés fondamentales, et que toute personne avec handicap a de tout genre a droit quand même de bénéficier de ce droit aux besoins des cadres juridiques internationaux qui se sentent intégrés aussi dans la société comme toutes les personnes ayant toutes les aptitudes physiques normales.
Est-ce qu'il y a des sanctions pour ceux qui bafouent le droit des personnes vivant avec handicap? Est-ce que dans la convention, il s'est prévu des dispositions comme ça?
Non, il faut reconnaître d'abord que dans la convention, c'est un cadre juridique international.
Ah, ok.
Mais qui donne au moins l'espace au niveau national, à tous les États membres. C'est-à-dire ceux qui ont signé et ratifié la convention et organiser les cadres juridiques nationaux. Et lorsque la personne se sent vraiment préjudicié de ce droit, et la personne quand même a droit de décider en justice et de porter son problème au devant du juge naturel.
Parce que le récalcitrant ne manque toujours pas dans notre pays surtout, mais en cas de non-respect de cette convention par un pays signataire, qu'est-ce qui arrive?
Mais il y a, dans chaque pays signataire constitue un membre de cette convention. Donc, c'est-à-dire, parce que vous avez signé, parce que vous avez accepté tout ce qui est énoncé dans cette convention, vous êtes dans l'obligation de le respecter. Voilà pourquoi on prend tout ce qui est énoncé de manière sommaire et eux, ils prennent ça, donc c'est-à-dire la République démocratique du Congo comme un pays signateur, ils prennent et ils répercutent ça sur ces lois nationales. Donc, c'est ce qui se passe. Bon, lorsqu'ils ne respectent pas, il existe un comité. On a mis un comité en place et l'État membre de cette organisation donne le rapport chaque fois et que avec partant de ces rapports et le comité, c'est comment ça se passe au niveau
nationale. Et ça leur permet quand même de donner quelques conseils, mais assurément, il y a des sanctions prévues par rapport à tout État membre qui ne respecte pas ce qui est énoncé dans la convention.
Donc, après avoir signé ou ratifié cette convention, l'État qui signe doit respecter les prérogatives liées à cette convention.
Exactement.
Et dans le cas contraire, il y a quand même de...
Il y a des mesures coercitives.
Ok, des mesures coercitives comme vous venez de l'évoquer. Mmh. Alors, Maître Jeff, on vous garde encore dans ce studio.
Radio Kapi, le souffle du Congo.
Nous poursuivons notre entretien avec Maître Jeff dans ce studio. Alors Maître Jeff, est-ce qu'une personne handicapée peut porter plainte pour inégalité dans le traitement accordé par la convention?
Exactement, Stanislas Sidjoumi. La personne vivant avec handicap est une personne normale, née vivant et viable. Donc il bénéficie des droits et obligations reconnus dans tous les instruments nationaux et internationaux. Donc, il peut porter plainte. Elle a pleinement le droit de porter plainte comme toute personne sans distinction. Donc, il a également le droit de porter plainte ou dénoncer les faits à caractère pénal ou civil.
Parce que nous remarquons que dans notre pays, il y a des personnes vivant avec handicap qui sont marginalisées, peut-être par cette impuissance de se rendre à la justice ou de dénoncer. Ils sont surtout victimes de la discrimination et cela fait que leur inclusion sociale pose des problèmes.
Le problème, c'est qu'ils sont ignorants de la loi qui les protège.
Okay.
Okay. La loi numéro 003. 22/003 portant déjà leur protection et leur promotion, la promotion de leurs droits. Donc ils doivent maîtriser ça pour pouvoir rester en justice afin d'être rétablis dans leurs droits. C'est très important. Ils ont vraiment le droit d'être en justice à tout moment lorsqu'ils se sentent lésés dans un droit ou dans un autre.
Vous savez, se rendre à justice dans notre pays, Maître Jeff, ça demande de l'argent. Et souvent, ces personnes sont très vulnérables dans le sens de la pauvreté. Moi, je connais un site au niveau de Ndjili, quartier site où il y a plein de personnes vivant avec handicap, mais et qui n'ont pas assez de revenus. Est-ce que cela n'est pas aussi dû à cette pauvreté qui les gangrène et qui fait que il n'y a pas moyen qu'ils aillent en justice parce qu'ils se disent tiens, ils vont demander de l'argent ou c'est parce que il y a un problème d'ignorance?
En fait, il y a un problème d'ignorance parce que l'argent ou la pauvreté ne peut pas faire que une personne vivant avec handicap ne puisse pas rester en justice. C'est impossible. D'abord, là, il y a des avocats qui sont là pour les aider et qui rendent des services sans honoraires. Donc, il y a des avocats qui sont là. Les magistrats, et là d'abord, lui, les magistrats, il est officier du ministère public, il représente l'État congolais. Or, l'État congolais a signé la convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap qui donne lieu à la loi dont je viens de citer, la loi numéro 22/003. Hein, donc, ils ont le temps de lire cette loi. Qu'ils aient le temps de lire cette loi. Et ils vont voir que ce n'est pas les frais de justice qui peuvent les empêcher d'aller rester en justice afin d'être rétablis dans leurs droits. C'est impossible. Donc ils peuvent rester en tout moment sans crainte, même s'ils n'ont pas le frais de justice.
Et est-ce que ces personnes vivant avec handicap qui ont de droits, mais ils ont également de devoirs, est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques-uns?
Ils ont des devoirs selon l'article 24 de la même loi que je viens de citer. Portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap, la personne qui vit avec handicap est tenue droit de manger, droit à la santé, droit à tout ça. Mais le devoir aussi de respecter la Constitution, par exemple, de respecter les lois et les règlements de la République. Ils ont aussi le droit de remplir loyalement les obligations vis-à-vis de l'État sous réserve de leurs déficiences. Hein, là où ils ne peuvent pas, par rapport à l'handicap qu'ils ont, là ça se comprend. Ils n'ont pas la possibilité de le faire, comme on dit en droit, dans l'impossible nul n'est tenu. Voilà, donc c'est très important qu'ils retiennent cela. Ils ont des obligations vis-à-vis à l'État, sous réserve de leur déficience. Et la personne vivant avec un handicap est aussi tenue au respect de la personne, son voisin, ou la personne qui est semblable à lui, ou à une personne normale. Donc il n'y a pas de différence, il n'y a pas de complaisance, et qu'il soit handicapé, qu'il soit une personne normale, tous, ils sont égaux devant la loi. Et il doit aussi respecter les biens des autres. Parce qu'ils ne sont, ils sont, handicapés, et qu'ils ont le droit de faire n'importe quoi. Non.
Donc, parce que, compte tenu de leur handicap, on ne peut pas les arrêter.
Non.
Ils sont protégés par la loi.
Non. La loi est au-dessus de tous. Donc, okay, personne ne peut être exempté par rapport à la loi. Même ceux qui ne connaissent pas la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Il est obligé de connaître la loi.
Parce que c'est pas... excusez maître, c'est ce que nous vivons à Kinshasa. Quand les personnes vivant avec handicap, surtout ceux qui ont des handicaps dans leurs membres inférieurs, mais ils sont très colériques quand ils se décident de faire quelque chose. Ils n'ont pas peur de la police, ils n'ont pas peur de qui que ce soit. Bon, c'est une façon pour eux de réclamer leurs droits, ou ils se disent non, bon, leur handicap les protège quand même contre certains actes.
Mais la loi est au-dessus de tous. Nul n'est au-dessus de la loi. Quels que soient ces handicaps-là, ils sont tenus au respect des droits, ils sont de la constitution, de loi nationale, et ils ne sont pas au-dessus de loi nationale. Mais si ils tuent aujourd'hui, on va dire parce qu'ils sont handicapés, ils peuvent tuer comme ils veulent. Non. Donc, ils doivent respecter les lois du pays, ils doivent respecter la constitution, respecter les lois nationales. Donc, si ils tombent sous le coup de la loi, ils seront sanctionnés comme tels. Donc, ils sont appelés à cultiver ces habitudes et cette attitude du respect de la loi, et à éviter à ne pas faire n'importe quoi. Et je rappelle encore l'article 25 de cette même loi, que la personne vivant avec un handicap doit contribuer à toutes circonstances et à tous les niveaux à la promotion des valeurs citoyennes dont on parle. La citoyenne est démocratique. Elle doit cultiver la paix, la tolérance, les dialogues et contribuer au renforcement de l'unité nationale. Et lorsqu'il fait ça, les désordres, ça ne renforce pas l'unité nationale et c'est pas bon. Et puis elle doit capitaliser toutes les opportunités positives qui lui sont offertes par l'État pour son développement intégral. Et je crois que c'est ça.
Alors, Maître Jeff Opela, avez-vous un message à lancer aux personnes vivant avec handicap en ce qui concerne la connaissance de leurs droits en ce jour qui leur est dédié plutôt?
Voilà, donc le message est très court en disant seulement que toute personne vivant avec handicap doit bannir la complaisance. Donc il doit vivre comme tout le monde, parce qu'il bénéficie de tous les droits reconnus à toute personne normale qui n'a pas d'handicap. Et cette journée leur est dédiée pour la promotion de leurs droits et de leurs libertés fondamentales. Donc il reste qu'ils bénéficient de ces droits, et je crois qu'ils doivent jouir de tous les droits fondamentaux consacrés par la loi nationale et les instruments juridiques internationaux auxquels la République démocratique du Congo fait partie.
Alors, chutons peut-être avec cette question. Est-ce que vous avez aussi un message à donner aux personnes qui se moquent souvent de personnes vivant avec handicap?
Ils n'ont pas choisi de vivre avec handicap. Donc, un mot, considérer. La tolérance, l'amour, leur donnera aussi la force de vivre dans la société. On doit remonter le moral, parce que quelqu'un qui vit avec handicap, il se voit un peu à la traîne par rapport aux autres, alors qu'il est une personne vivant et viable et bénéficiant de tous les droits et libertés fondamentales.
Maître Jeff Opela, nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions et nous espérons vous retrouver très prochainement.
Merci.
C'est donc par cet entretien avec Jeff Opela que nous mettons un point final à ce numéro du magazine Bana Okapi. Nous avons été heureux de passer ce temps en votre compagnie. Fidèles auditeurs de magazine du jour, Bana Okapi a parlé de comment traiter les personnes vivant avec handicap en ce 3 décembre, qui est la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Ce magazine est à réécouter plutôt sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net, ou sur la page Facebook Bana Okapi. Restez branchés sur la fréquence de la paix, Radio Okapi. Bye bye.